On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Jean-Claude Dacier est là, Jean Garrigue, Maître Golnadel et Thibault de Montbrial, conseiller régalien pour les questions évidemment de sécurité de Valérie Pécresse. Demain, Emmanuel Macron va se rendre à Strasbourg. Il va inaugurer la présidence française de l'Europe avec un grand discours. Il y aura d'ailleurs un débat dans le Parlement européen. Et puis on s'aperçoit que nombre des candidats à la présidentielle vont eux aussi parler beaucoup de l'Europe. C'est ça, Loïc Sinan, vous êtes sur place avec Olivier Gangloff.
Emmanuel Macron vient à Strasbourg et ce sont tous les candidats à l'élection présidentielle, ou presque, qui se mettent à parler d'Europe. Conférence de presse aujourd'hui de Marine Le Pen. Plus question pour elle de sortir de l'Union ou d'abandonner l'euro. La candidate cherche une crédibilité sur ce thème pour solder l'échec de 2017. Elle veut désormais, comme ses alliés polonais ou hongrois, être un poil à gratter dans les 27 et casser autant que possible les consensus. Première priorité, bien sûr, l'immigration. Jean-Luc Mélenchon a lui aussi convié les caméras. Cet après-midi à Strasbourg, une stratégie pour le candidat insoumis. L'insoumission, rapport de force permanent, blocage assumé et désobéissance aux règles de Bruxelles. Demain, c'est un autre candidat qui affrontera lui directement le président sortant dans l'hémicycle. Yannick Jadot a pour cela négocié en interne le tour de parole normalement réservé au président du groupe écologiste. Il aura 5 minutes sur les 8 accordées aux Verts pour exposer son contre-projet européen. Du point de vue de l'Elysée, ça montre, je cite, leur rétrécissement, taper sur l'Europe. On l'a vu avec la polémique sur le drapeau, dit-il, ça plaît peu aux Français. Il tombe dans un piège facile, conclut ce proche du président qui aura de son côté 3 heures pour exposer ses priorités devant les députés avant de tenir, lui aussi, une conférence de presse. Pour Macron, l'Europe, c'est fromage et dessert.
Merci Loïc Signor avec Olivier Gangloff à Strasbourg. Thibault de Montbrial, dans le discours d'Emmanuel Macron, il y aura évidemment la question de la souveraineté européenne et la question de migratoire avec la réforme de l'espace Schengen. Qu'est-ce que peut faire le président? Qu'est-ce qu'il peut proposer pour arriver à empêcher ce qu'il souhaite, c'est-à-dire les flux migratoires non désirés?
Ah, moi, je ne sais pas ce que le président peut faire, mais je sais ce que Valérie Pécresse veut faire.
Non, mais alors, qu'est-ce qui fonctionnerait
aujourd'hui, on constate déjà que les frontières de l'Europe sont complètement poreuses. C'est-à-dire que les gens qui se donnent un petit peu de mal, avec l'aide de passeurs et avec l'aide d'associations dont je préconise depuis des années qu'on cesse de leur donner des subventions et qu'on criminalise leur action, eh bien, font entrer des gens en Europe de façon clandestine à différents endroits. Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont allés ce week-end en Grèce. Et la Grèce a complètement changé sa manière de travailler avec un gouvernement de droite qui a mis en place des centres fermés pour héberger dans des conditions évidemment de dignité totale, avec accès non seulement aux soins, ce qui est une évidence, mais aux moyens de communication, au téléphone, etc. Mais pour garder les demandeurs d'asile le temps que leur demande soit examinée et pour évidemment les avoir sous la main si d'aventure leur demande d'asile était rejetée. Ensuite, il faut que les pays, et en particulier la France, aient des relations bilatérales extrêmement fermes avec les pays d'origine et que nous cessions de délivrer des visas si les pays refusent
mais
de reprendre leurs gens.
C'est le cas, c'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, vous êtes au courant, ça n'a eu aucun effet.
Bah, après, je ne sais pas comment
réduction
Gérald Darmanin...
Réduction de moitié des visas, zéro expulsion.
De réduction de moitié, déjà, c'est pas réduction totale. Je pense qu'il faut renverser la table sur ces questions et qu'on ne peut pas continuer à faire du en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... il faut être extrêmement ferme. Il faut commencer par dire que l'immigration non maîtrisée est une plaie, et c'est une plaie qui peut être mortelle pour l'Europe. C'est mortel sur le plan culturel, c'est mortel sur le plan de l'islamisme, c'est mortel sur le plan d'une forme de délinquance qui a explosé depuis 6 ou 7 ans dans des pays comme bien sûr en France, mais aussi en Italie, en Suède, etc. On le sait tout ça. On le dit pas forcément, mais on le sait. Donc, la dernière chance de l'Europe, sur les années qui viennent, c'est de se mettre d'accord sur des questions de souveraineté qui doivent être des questions de souveraineté traitées drastiquement et il faut complètement changer la manière de voir les choses.
Vous pensez qu'à 27, on peut se mettre d'accord sur des questions aussi importantes?
Je pense qu'aujourd'hui...
C'est mission impossible.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué et qu'à terme, il faut repenser l'organisation européenne. Je pense qu'on
ne pourra pas... Mais qu'il n'y aura pas plusieurs vitesses.
Je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie à titre personnel.
Maître Golnadel, ces questions migratoires.
Écoutez, je n'ai jamais cru aux accords de Schengen. Et les accords de Schengen ont eu comme conséquence de tuer de tuer nos frontières et plus personne ne protège l'Europe, donc plus personne ne protège la France. Je ne crois pas du tout d'ailleurs à un peuple européen. Je comprends ce que dit Marine Le Pen, mais il faut qu'elle aille jusqu'au bout de son analyse. Nous sommes trahis, si vous voulez, de l'extérieur et de l'intérieur. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France lorsque la France expulse un terroriste algérien, pas du tout français, un terroriste algérien condamné pour le renvoyer en Algérie sous prétexte qu'il serait peut-être dangereux, en danger en Algérie, on est obligé de le garder en France. Autrement dit, on préfère protéger la sécurité d'un terroriste algérien plutôt de la sécurité des innocents français. Et comme si ça ne suffisait pas à notre malheur et à notre détresse, vous avez un conseil constitutionnel qui, en France, considère que Cédric Herrou, qui va chercher...
Un militant, effectivement, du sud de la France.
Qui va chercher des immigrants illégaux de l'autre côté de la montagne, lui n'est pas condamné, alors qu'on condamne les identitaires lorsqu'ils manifestent de manière symbolique. Si on ne voit pas que nous construisons notre tombe avec nos propres pelles, on ne voit rien du tout.
Jean Garrigue, une vision peut-être plus nuancée ?
Mais elle est tout à fait nuancée, malheureusement.
Un tout petit peu différente, en tout cas. Sur la notion de peuple européen, on peut discuter. Moi, j'ai une certitude, mais je la partage avec beaucoup de gens, c'est qu'effectivement, il faut repenser l'organisation de l'Europe et qu'on ne peut pas fonctionner à 27. Il faut revenir à des cercles. Il y a un cercle de base qui devrait décider, y compris d'ailleurs un salaire minimum européen, par exemple, puisque c'était un des projets d'Emmanuel Macron. Et qu'on ne résoudra pas les problèmes majeurs qui se posent, que ce soit en termes de sécurité extérieure, d'immigration, etc., si l'impulsion ne vient pas de ce premier cercle. C'est tout un travail. Je ne sais pas où en est la diplomatie française par rapport à ça. C'est une idée qui tourne depuis des années, et que je ne vois pas mettre en œuvre. Je me souviens que quelqu'un comme Éric Woerth, par exemple,
Valéry Giscard d'Estaing l'a
prôné. C'est fondamental. Par rapport au fonctionnement actuel de l'Europe, quand on voit comment ça fonctionne. Alors après, sur les problèmes spécifiques, c'est vrai que Schengen ne fonctionne pas, ce que disaient Thibault et Gilles William, c'est tout à fait vrai. Il faut absolument là-dessus changer de braquet. Mais je le répète, j'ai l'impression que rien ne se fera si on ne commence pas par donner cette impulsion, par reconstruire l'Europe. Moi, je suis pour ceux qui veulent plus d'Europe. Parce que l'Europe, elle nous a apporté, par exemple, ce grand plan d'investissement pour sortir de la crise pandémique. Donc, je pense qu'il faut plus d'Europe. Mais mieux d'Europe. Mieux d'Europe et une Europe construite de manière totalement différente. Si on veut convaincre les Français que ça sert à quelque chose, construisons-la différemment.
On va écouter Marine Le Pen, parce qu'elle s'est effectivement exprimée aujourd'hui sur sa vision de l'Europe, et notamment en mettant dos à dos Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Écoutez-la.
Que les choses soient claires, tant pour Emmanuel Macron que pour Valérie Pécresse, il n'y a pas et il n'y aura jamais de souveraineté européenne, car il n'y a pas de peuple européen. Défendre l'idée de souveraineté européenne, comme le font les jumeaux Macron-Pécresse, me paraît en outre totalement incompatible avec la fonction présidentielle gravée dans le marbre de notre Constitution qui fait du président de la République le garant de l'indépendance nationale. Et le positionnement du drapeau européen seul à la place du drapeau français sous l'arc de triomphe était à ce titre non pas une erreur de communication, mais un aveu édifiant.
Voilà les jumeaux Macron-Pécresse. Thibault de Montbréal, oui, vous qui soutenez Valérie Pécresse.
Mais oui, mais il faut comprendre pourquoi Marine Le Pen dit ça. Marine Le Pen, il y a quelques mois, était absolument persuadée d'arriver tranquillement au deuxième tour et préparait sa revanche. Donc là, la situation est complètement différente. Elle est mise en difficulté par le fait qu'elle a une candidate LR qui est Valérie Pécresse, qui a une vraie chance de la battre. Un candidat Éric Zemmour qui n'était pas du tout prévu au programme et qui l'affaiblit également. Et donc, elle ne peut que dire que Pécresse et Macron sont des jumeaux, mais quand on regarde, c'est pas vrai du tout. Et pour finir sur Marine Le Pen, sans rentrer à nouveau sur les différences de mesures entre Valérie Pécresse et ce qui a été fait ou plutôt pas fait par Emmanuel Macron jusqu'à maintenant, il faut quand même rappeler, et Jean l'a fait tout à l'heure, c'est que Marine Le Pen, elle dit la même chose depuis des années, et que depuis des années, que ce soit au Parlement européen à Strasbourg ou que ce soit au Parlement français à Paris, n'a jamais voté les textes qui sont les textes régaliens et qui permettent de faire des pas peut-être insuffisants, mais en tout cas dans la bonne direction. Donc Marine Le Pen est dans une logique protestataire, elle en fait son commerce, elle espère convaincre, mais ce n'est pas un parti, ce n'est pas une présidente, ce n'est pas un parti qui jusqu'à maintenant a exercé son rôle d'opposant en responsabilité sur ces questions cruciales.
Il n'y a pas de peuple européen, disait Marine Le Pen.
Oui, mais ça, j'y souscris tout à fait. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas d'idée européenne, il n'y a pas de, ce sont des peuples polyglottes. Je me sens aussi proche d'un Brésilien que d'un Allemand, pardon, y compris en matière footballistique. Et je crois que je ne suis pas le seul de ce point de vue-là. Mais en dehors, je veux dire plus sérieusement,
il y a une idée européenne, il y a des valeurs.
Avant d'avoir été interrompu grossièrement par monsieur...
Par Victor Hugo.
Non, mais en dehors du procès en gémellité diligenté par Marine Le Pen, je ne veux pas me prononcer sur l'ADN de Macron et de Mme Pécresse, mais une chose est certaine, là où elle a raison, là où monsieur Macron est tout à fait, je crois, dans sa sincérité, c'est le seul domaine peut-être où je crois dans sa sincérité totale, c'est en tant qu'Européen. C'est un Européen, pour ne pas dire européiste, convaincu, et c'est vrai que l'incident du drapeau, ça n'est pas vraiment un incident.
C'est
une différence entre Macron et Pécresse. Là, sur le drapeau, c'est
vrai. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon, Jean.
Je voulais juste dire que la question de la souveraineté européenne n'est jamais exclusive de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que les Européens, et moi je suis européiste, voilà, donc je l'assume, les européistes comme moi, les méchants européistes comme moi, qui sont responsables de tout ce qu'il y a de mal en France, eh bien, ne contestent en rien la souveraineté nationale. Toute l'histoire des Européens, c'est une histoire de patriotes. Victor Hugo a été un grand patriote. Les résistants de 1945, ceux qui font le manifeste de l'Union européenne, qui voulaient des États-Unis d'Europe, c'était les plus patriotes des patriotes. Alors, il ne faut pas opposer le patriotisme national et la souveraineté européenne.
Le problème, vous avez raison. Vous avez raison, historiquement. Oui. La question, c'est que c'était il y a 80 ans, oui. Ça fait 3 générations, qu'est-ce que c'est devenu? Le projet est totalement parti en toupie. C'est ça le problème.
Les Français, on attendait toutes sur l'efficacité et l'avenir de l'Europe. On est plus, à mon avis, menacé d'éclatement de l'Europe que d'autre chose. Et je trouve que le départ de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, le Brexit, c'est pas rien quand même.
Ils n'ont jamais été européens.
Non mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont partis quand même. Et qu'il y a un certain nombre de pays qui ne partagent pas la souveraineté européenne est un leurre. Tu vas pas demander à des Polonais, à des Hongrois, à des Belges, à des Danois. Ça n'existe pas. Nous sommes des vieilles nations. Les Français ont vu l'idée européenne il y a quelques années avec beaucoup de séduction, beaucoup d'intérêt. Ils en attendaient une amélioration de leur situation. Ils ont une concurrence. Leur échappe. Ils en attendaient une Europe puissance. Ils n'ont rien.
Il faut la reconstruire.
Oui, alors voilà. L'Europe d'aujourd'hui, c'est pour ça que je trouve que la position. Je pense qu'il n'y a pas un candidat à la prochaine présidentielle, y compris Macron, qui gagnera une voix en défendant l'Europe européiste et souverainiste comme il le souhaite. Fédéraliste, pardon. Excusez-moi de ce lapsus. Je pense que il aura le grand mérite d'essayer d'expliquer que l'Europe, c'est notre avenir. Oui, sans doute, peut-être, à condition d'en changer les règles. Au jour d'aujourd'hui, même si les règles d'unanimité, je le sais, dans beaucoup de domaines ont été oubliées, différentes, et qu'on peut éventuellement, avec beaucoup d'heures de négociations, se mettre à peu près d'accord, l'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est dans une impasse, qu'on le veuille ou non. Et Marine Le Pen, Zemmour, en réalité, il n'accepte pas du tout le fonctionnement de l'Europe tel qu'on la voit fonctionner aujourd'hui. En revanche, ils vont se heurter sans aucun doute à un président de la République sortant qui, lui, va défendre l'idée européenne et la souveraineté et l'européisme.
Juste un mot, il n'y a pas que les règles de majeur. Il n'y a pas que la règle de l'unanimité qui plombe l'Europe. Il y a aussi des visions. Quand on voit qu'un certain nombre de pays, au moment de la crise à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, un certain nombre de pays étaient contre le fait de soutenir la Pologne. Or, qu'on le veuille ou non,
La Grande-Bretagne.
La Grande-Bretagne, absolument, vous avez raison Laurence. Mais qu'on le veuille ou non,
aujourd'hui, nos frontières, ce sont les frontières aux limites de l'Europe. Donc c'est la frontière polonaise, donc c'est la frontière grecque, donc c'est la frontière italienne. Et on ne peut pas faire comme si, c'est loin, c'est là-bas, et puis il faut les laisser, et puis attention, les méchants. Non, nos intérêts vitaux sont aux frontières de l'Europe. Moi, je pense qu'il faut changer l'organisation européenne, c'est un vaste programme. Par pragmatisme, il faut au moins avoir la lucidité de comprendre que nous avons un intérêt de souveraineté commun, et que cet intérêt de souveraineté commun, c'est que les gens qui rentrent en Pologne, c'est comme s'ils rentraient en France.
Un dernier mot, Maître Gonadel,
Il y a eu une vraie, véritable, je veux bien croire que l'européiste Garrigue soit aussi européen que français, mais il y a eu une dérive. Il y a eu une véritable dérive impériale qui s'est faite au détriment de l'État-nation français, et les Français avaient refusé la Constitution européenne et on leur a imposé. Et ils ne le pardonnent pas.
C'est sur le financement de la crise. Incontestablement, grâce à l'euro et à la Banque Centrale Européenne, on s'en est à peu près sorti.
Il n'y a pas que l'argent.
Ça, c'est vrai.
Il n'y a pas que l'argent.
Contrairement
à ce que disait Marx,
d'avoir participé.
Contrairement à ce que disait Marx, non seulement les prolétaires ont une patrie, mais ils n'ont même souvent que ça.
Merci à tous les quatre. Voilà. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info sur CNews. Et moi, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite des débats. Bonne soirée sur nos deux antennes.